Radio Kapi.
Le journal, c'est avec Patience Ngalula. Au sommaire de cette édition d'information, campagne de vaccination contre la variole des singes au Nord Kivu. Le lancement officiel a eu lieu hier à Goma. 48 000 personnes sont ciblées pour cette première phase d'immunisation contre le Mpox et les activités de vaccination proprement dites débutent dès ce lundi 7 jusqu'à jeudi 10 octobre. Les collectifs des candidats aux élections municipales et urbaines de la ville de Kisangani ont ras-le-bol de la lenteur de la CENI à organiser ces échéances. Dans une déclaration à la presse locale hier, ils exigent la publication du calendrier y afférent dans un délai de 10 jours. Le directeur pays adjoint de l'Oxfam, Raphaël Mbouyi, est l'invité de ce journal. Cette ONG internationale a lancé ce vendredi à Kinshasa un programme de transformation du système humanitaire à travers le leadership humanitaire local. Bonsoir à tous. Au Nord Kivu, 48 000 personnes ciblées pour la première phase de la campagne de vaccination contre le Mpox lancée hier à Goma. Cette vaccination va permettre à rompre avec la chaîne de transmission. C'est le directeur des cabinets du ministre de la Santé qui a procédé au lancement devant les autorités sanitaires de la province. Cette campagne va se dérouler d'abord dans trois zones de santé les plus touchées de la province, Goma, Karisimbi et Nyiragongo notamment. Elle démarre le lundi 7 octobre jusqu'au 10 octobre prochain. Denise Loukesso pour les détails.
Pour la conseillère du gouverneur en charge des santé, 14 zones de santé sur les 34 qui comptent la province sont déjà touchées par la Mpox. Les risques restent donc potentiellement élevés au Nord Kivu qui a enregistré jusqu'à ce jour 369 cas confirmés dont 2 décès. Les zones de santé de Goma, Karisimbi et celle de Nyiragongo constituent l'épicentre de l'épidémie.
Les taux de mortalité étant de 5 à 25% avec une moyenne de 10%. Cette maladie mérite donc une attention particulière de tout un chacun et nécessite l'engagement de tous les secteurs sociaux pour une réponse efficace concertée. Faisons-nous vacciner, respectons les mesures d'hygiène et nous contribuerons sûrement à rompre la chaîne de transmission.
Notons que 2 doses seront administrées chez les adultes et 1 dose chez les enfants de moins de 18 ans. Cette première phase va aller du 7 au 10 octobre prochain, soit 3 jours. Cette première phase concerne d'abord les personnes prioritaires, les personnes de santé, les déplacés de guerre, les bouchers, les professionnels de sexe, les agents au point d'entrée et de contrôle et les vétérinaires, pour ne citer que celles-ci. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Restons à Goma, au Nord Kivu. Les recherches des disparus du naufrage du bateau MV Merdi se poursuivent. Une équipe de plongeurs locaux est à pied d'œuvre depuis ce dimanche matin dans les eaux du lac Kivu. Elle tente, en étroite collaboration avec d'autres services, de localiser en premier lieu les bateaux. Cependant, l'un de ces plongeurs a connu quelques difficultés en plein exercice. Il a été immédiatement repêché des eaux par ses pairs. Des sources recueillies sur place pensent que ces malaises seraient liés à la présence du gaz dans ces périmètres du lac. Pour autant, les recherches se poursuivent même si pour l'instant, il n'y a pas encore des résultats probants à faire, donc à suivre. Dans la province de la Tchopo, les collectifs des candidats bourgmestres, bourgmestres adjoints et conseillers urbains de la ville de Kisangani sont indignés de la lenteur relative à l'organisation des élections municipales. Dans une déclaration à la presse locale hier à Kisangani, ils exigent à la CENI la publication du calendrier y afférent dans un délai de 10 jours. Faute de quoi, la CENI devrait rembourser leurs frais de dépôt de candidature, sinon ce serait une simple escroquerie. Pour ce faire, ils ont formulé un certain nombre de recommandations aussi bien au gouvernement de la République, à la CENI qu'au chef de l'État. Un extrait de leur déclaration lu par leur porte-parole, Léon Ossono, a été sélectionné par Jacques Moukonkole.
Primo, au gouvernement de la République de mettre à la disposition de la CENI les 49 millions de dollars américains restants pour le parachèvement du processus électoral. Ne pas le faire, cela sera pris pour une escroquerie à ciel ouvert, car les différents candidats à tous les niveaux avait payé la caution liée aux dites élections. Segundo, à la CENI, de publier toutes les affaires cessantes, les calendriers électoraux pour le reste du processus, à savoir les élections de bourgmestre, bourgmestre adjoint, ainsi que celles des conseillers urbains, dans un délai de 10 jours. C'est à dater de ces jours, faute de quoi le collectif des candidats bourgmestre, bourgmestre adjoint et conseillers urbains se verra dans l'obligation d'exiger à la CENI les remboursements total et sans condition des frais liés au dépôt des candidatures et à la constitution des dossiers. Tertio, le collectif demande au président de la République et chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du fonctionnement harmonieux des institutions, d'exiger au gouvernement de la République de décaisser en procédure d'urgence le fonds nécessaire à l'organisation de ces séances électorales. À la CENI, la publication du calendrier électoral pour les élections de bourgmestre, bourgmestre adjoint et celle des conseillers urbains.
Ici à Kinshasa, la sensibilisation de la jeunesse à la bonne gouvernance a fait l'objet d'un atelier hier samedi à l'hôtel Memling à Kinshasa, organisé par l'association sans but lucratif Cercle Axiologique. Deux professeurs ont exposé autour de thèmes généraux pour une philosophie de la bonne gouvernance, voie à suivre pour le développement intégral et durable de la RDC. Reportage Étienne Lissombo.
La jeunesse doit être un modèle de leadership pour la gouvernance de la chose publique, car l'honnêteté et l'intégrité sont des éléments importants pour la gestion de la chose publique. Ngoma Binda, professeur des universités, souligne que les vertus doivent exister dans un pays pour que celui-ci fasse des progrès.
Nous devons abandonner les très mauvaises habitudes de voler l'argent du pays, les très mauvaises habitudes de tribalisme, de tribocentrisme, comme j'aime à le dire. Nous devons abandonner tous les défauts qui sont les nôtres présentement.
Pour sa part, Olivier Sambaï, coordonnateur de l'ESBEL Cercle Axiologique, donne l'objectif de cette messe scientifique.
L'objectif de cette conférence, c'est de sensibiliser l'élite. C'est l'élite qui accède à la gestion de la chose publique afin que l'on comprenne la valeur des vertus. Seules les vertus peuvent aider à la bonne gestion de la chose publique.
Signalons que l'ASBL Cercle Axiologique organisera une conférence en novembre prochain pour célébrer les 70 ans d'existence de l'Université de Kinshasa.
À Beni, dans la province du Nord Kivu, trois militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, ont été condamnés à la peine de mort pour vol à main armée. Cette décision a été rendue par le tribunal militaire des garnisons de Beni lors d'un procès en flagrance après que les prévenus ont été reconnus coupables de vol à main armée. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Dieu merci Amando, Sami Congo et Jonas Tambou, tous soldats du 33e bataillon militaire des FRDC, ont été condamnés à la peine de mort ce samedi 5 octobre 2024 par le tribunal militaire des garnisons de Beni. Le verdict a été prononcé après 2 jours de procès tenus en foraine sur l'esplanade de la mairie de Beni. Les militaires ont été reconnus coupables des vols à main armée et des violations des consignes militaires. Les faits reprochés remontent au jeudi 3 octobre, lorsque ces soldats armés ont attaqué une maison de transfert d'argent dans le quartier Malépé de la commune de Béou dans la ville de Beni. Ils y ont volé 2 millions de francs congolais, 2 000 dollars américains ainsi que 3 téléphones portables utilisés pour les transferts d'argent. Leur arrestation a été rendue possible grâce à l'intervention des jeunes du quartier et des forces de sécurité. En plus de la peine capitale, le tribunal a condamné les 3 militaires à verser 15 000 dollars américains en guise de dédommagement. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Direction la province de l'Ituri où à Bounia, un agent d'une maison de transfert des monnaies mobiles communément appelée M-Pesa a été tué par balle la nuit de samedi à ce dimanche à Kanyachi, au quartier Bakongolo, à proximité de l'aéroport national de Murongo. La victime d'une trentaine d'années revenait de son lieu de service. Après leur forfait, les auteurs du meurtre ont pris fuite en emportant une importante somme d'argent. Une situation qui a donné lieu quelques minutes après à des échauffourées entre la police et les habitants du quartier en colère. Récit des faits, Martial Kizabiamungu.
19h05, heure locale, des hommes armés sur une moto sur juste 6 bitumas en diagonale du marché Kanyasi sur la route principale tirent à bout portant 3 coups de balle sur un jeune homme à la trentaine. C'est une panique totale parmi la population qui vaquait normalement à ses occupations. La victime est un ancien d'une cabine de MPSA bien connue dans les milieux. L'effet se passe à moins de 100 mètres de son lieu de travail. Les malfrats, après leur forfait, récupèrent une importante somme d'argent dont le montant n'est pas connu et prennent une destination inconnue. La victime, gisante dans son sang, est acheminée à l'hôpital Sophie Padi, très proche du lit du drame. Elle succombe quelques minutes après de se blesser, ce qui enflamme la colère des jeunes de Kanyasi. Ces derniers s'apprennent au bureau de la police proche du lit du meurtre. C'est alors que les éléments de l'ordre tuent quelques coups de sommation pour disperser les manifestants. Ce dimanche matin, la police dit avoir ouvert des enquêtes pour mettre la main sur les auteurs de ces crimes. Bounia Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
La coordination provinciale de la jeunesse du parti Ensemble pour la République du Tanganyika condamne la tentative d'arrestation du président national Moïse Katumbi. C'est au sujet du dossier de la réhabilitation de la piste d'atterrissage de Mulonde dans le territoire de Pweto, province du Haut-Katanga. Dans une déclaration politique ce samedi à Kalemi, la jeunesse appelle les gouvernements d'œuvrer plutôt au renforcement de la cohésion nationale au lieu de s'acharner sur Moïse Katumbi. On écoute Vianney Muteta, président provincial de la jeunesse d'Ensemble dans les Tanganyika. Ses propos sont sélectionnés par Paulin Munanga.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté la tentative d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques des œuvres sociales de notre président national, le camarade Moïse Katumbi, consistant à réhabiliter l'hôpital et la piste d'aviation qui s'y rattache dans le village de Mulonde. Nous rappelons que le président Moïse a eu à le faire dans le passé à Kibombo, au Maniema, à Kasenga, Pweto et dans son village natal Kachobwe, dans le Haut-Katanga. Appelons à l'arrêt de toute pratique tendant à régresser l'état de droit et à intimider toute voix décidante pour passer en force à la révision constitutionnelle ou carrément au changement de la Constitution. Appelons les gouvernements à œuvrer au renforcement de la cohésion nationale afin de bouter hors état de nuire l'occupation de l'Est par les forces étrangères.
Mais qu'en est-il de cette piste d'atterrissage de Mulonde? La réponse dans ce reportage de Jean Gandou rendu par Étienne Lissumbu.
La piste de Mulonde se trouvant dans le groupement de Kafwa, territoire de Pweto dans le Haut-Katanga. Elle existe depuis plusieurs décennies et est connue dans la région de voies aériennes. Moïse Katumbi a aussi une concession dans ce village où il a construit un hôpital. D'après ses proches, pour des raisons caritatives et pour faciliter les évacuations des malades, il a entamé les travaux de réhabilitation de cette piste et il en a informé l'autorité de l'aviation civile. Cette dernière a dans une correspondance répondu à Moïse Katumbi qu'il a commencé ses travaux sans en avoir informé l'autorité des tutelles. Il tombe sous le coup de l'article 183 alinéa 1 de la loi portant sur l'aviation civile en RDC qui stipule que est puni de 5 à 10 ans de servitude pénale et une amende toute personne qui modifie, exploite et dessert un aérodrome sans l'autorisation de l'autorité de l'aviation civile ou du ministre des tutelles. Lit-on à cette correspondance abondamment relayée dans la presse et sur les réseaux sociaux. Et dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier, les forces de défense sont descendues sur terrain et ont mis la main sur le chauffeur de Moïse Katumbi et saisi son véhicule.
Au Kasaï oriental, le lancement ce samedi en Mbujimayi de la vente de plus de 170 tonnes de maïs de la réserve stratégique générale, cellule de la présidence de la République. La cérémonie a été présidée par les conseillers du gouverneur des provinces. Quelques femmes ménagères se disent satisfaites de la vente de cette denrée alimentaire. Des explications avec Esther Ndalafina.
La vente de 173 tonnes de maïs produit au Kasaï oriental par la cellule des réserves stratégiques générales à travers la fondation Marthe Kasalou s'effectue à la Caritas Mbujimayi dans la commune de Lakanchi. Nestor Kabamba, coordonnateur adjoint de la réserve stratégique générale, a indiqué que cette année, son service s'emploie à soutenir les agriculteurs afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Kasaï oriental.
Nous devons unir nos efforts pour garantir la sécurité alimentaire et soutenir nos agriculteurs. C'est dans cet ultime but que la réserve stratégique a eu à signer. Et notre partenariat avec les banques et le programme alimentaire mondial.
Un sac de 100 kilos se vend à 145 000 francs congolais. Les femmes ménagères estiment que le prix est abordable.
Je suis venue acheter le maïs ici au Caritas à moins cher. Nous avons acheté librement, il n'y a pas beaucoup de personnes.
En tant que population, ça nous permet de mieux vivre aussi.
Signalons que la vente de maïs intervient une semaine après la reprise de la vente en Mbujimayi du maïs produit par le service national de Kanyamakasese. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale. Au Ghana, la manifestation de 3 jours contre les mines d'or illégales s'est achevée ce samedi 5 octobre par une veillée qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes à Accra. Les manifestants ont exigé la libération immédiate des 53 militants arrêtés lors des premières mobilisations du mouvement Stop Galamsey Now. Une jeune manifestante a exprimé sa détermination. Je suis convaincue qu'il faut mettre un terme à l'exploitation minière illégale au Ghana. Nous devons continuer à agir, à faire des grèves, à manifester pour attirer leur attention. Ils font la sourde oreille, mais nous savons qu'ils nous entendent.
L'invité.
L'organisation internationale Oxfam a lancé vendredi à Kinshasa un programme de transformation du système humanitaire au travers le leadership humanitaire local. Ce nouveau programme de 2 millions de dollars vise l'amélioration de la qualité des fonds humanitaires gérés par les acteurs humanitaires locaux et nationaux. Le directeur pays adjoint de l'Oxfam, Raphaël Mbouy, évoque notamment la question de la localisation de l'aide de ces programmes. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Koko.
Monsieur le directeur pays adjoint de l'OSFAM, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous venons d'assister à la présentation du programme de transformation du système humanitaire de l'OSFAM, bien entendu. Qu'est-ce que l'opinion nationale et internationale peut retenir de ce programme?
Ok, il est important que l'opinion retienne de ce programme que Oxfam est dans ce processus depuis plus de 5 ans pour la promotion de la localisation de l'aide. Et donc, et dans le programme de la localisation de l'aide, et que ce processus que nous avons entamé aujourd'hui nous permettrait de rendre de plus en plus le processus de la localisation effectif en République démocratique du Congo, en donnant plus d'opportunités, plus de responsabilités aux acteurs humanitaires locaux, aux organisations de la société civile nationale et locale, de prendre la gestion de l'aide en République démocratique du Congo.
Vous venez de parler de la localisation, mais dans la salle, il y a eu une certaine crainte qui a été exprimée. Comment est-ce que vous comptez dissiper cette crainte en ce qui concerne la localisation des acteurs locaux dans la mise en œuvre de ce programme?
Vous savez, c'est un processus, c'est un nouveau processus, et les craintes sont normales dans un processus pareil, parce que chacun veut voir le processus soit aller vite, dans un rythme qu'ils auraient souhaité voir le processus évoluer. Mais je pense que nous pouvons que les appeler à faire confiance au processus, parce que la localisation elle-même, c'est un processus, c'est pas un fait. Donc c'est dans la durée, dans le temps, et c'est une marche qui évolue étape par étape. Ils n'ont qu'à faire confiance au processus.
Justement, ce programme vise 3 provinces du pays, les 2 Kivu et les l'Ituri. Comment expliquer ce choix alors que le pays compte 26 provinces?
Merci beaucoup. Les pays comptent effectivement 26 provinces, mais comme vous constaterez, ces 3 provinces sont les provinces les plus affectées par la problématique de l'aide humanitaire. Donc, il est donc normal que ce processus commence à évoluer dans cette zone-là. Si vous considérez même le nombre des acteurs de la société civile qui interviennent dans les domaines d'urgence, c'est dans ces provinces-là. C'est parce que c'est là où il y a la grande problématique d'urgence en ce qui concerne l'aide humanitaire en République démocratique du Congo.
Monsieur le directeur adjoint, pour terminer, un mot sur la collaboration, le partenariat avec les Conafod.
Oui, Conafod est un partenaire d'Oxfam de longue date. Oxfam a même participé à la construction de Conafod. Et c'est une organisation qui a montré beaucoup de dynamisme. En 2 ans, cette organisation a pu se hisser à un certain niveau comme un consortium de plusieurs organisations humanitaires nationales et locales. Et donc, c'est vraiment un partenaire de mise en œuvre que Oxfam accompagne dans la prise en charge de ce processus de l'effectivité de la mise en œuvre de la localisation en République démocratique du Congo.
Oui, monsieur le directeur adjoint, je vous remercie et bon vent à votre programme.
Merci beaucoup à vous également et nous comptons sur vous pour la sensibilisation sur l'importance de la localisation, mais aussi la qualité de cela par les acteurs humanitaires.
Et c'est la fin de ce journal. Polydor Basunga a assuré sa mise en onde. Alain Irung Mouchinj et Jacques-Yves Molima l'ont supervisé et coordonné. Patience Ngalou Lambombo, c'était moi à la présentation. Merci à vous tous de nous avoir écoutés.